L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Cette semaine, nous allons vous amener près du quai de la Loire, non pas à Tours, mais à Paris. Nous allons vous montrer un repère de colibris. De colibris, pas les petits oiseaux, mais les colibris de Pierre Rabhi. Donc, on va aller voir à quoi ressemble certainement l'un des mouvements les plus connus en écologie. Alors, on quitte les bords du canal et on va prendre une petite rue. Et on a rendez-vous au 18, où paraît-il, les colibris fêtent un mariage en plus. Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Alors ici, c'est un repère de colibris.
Exactement, ouais. On est devant les bureaux de colibris.
Bonjour les colibris.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous n'êtes pas des petits oiseaux, mais vous mangez quand même un petit peu de pain comme les oiseaux.
Bah ouais, t'en veux ? T'as assez de mains pour en prendre un petit peu ?
Oui, j'ai assez de mains.
Bah écoute, vas-y, sers-toi.
Bienvenue.
On trinque à mon mariage.
Oui, Aurore s'est mariée.
Tu te maries ?
Je me suis mariée.
Ah, tu t'es mariée.
Oui.
Bon, Gabriel, on va laisser tout le monde fêter le mariage d'Aurore. Et tu vas aller m'expliquer ce que c'est que ce petit monde, ce que c'est que cette oasis de colibris. Ça marche ?
Avec grand plaisir, allons-y, oui.
Donc ça, c'est notre salle pour nous isoler un peu quand on a besoin de passer des coups de fil ou de faire des interviews, voilà.
Alors, on va voir avec toi un petit peu d'abord ce que sont les colibris, on va le rappeler. Mmh. Tout le monde est censé connaître les colibris, mais tout le monde ne connaît pas, donc on va rappeler l'histoire de ce mouvement.
C'est pas une question anodine, parce que l'action et l'ampleur de notre activité est telle que souvent les gens ont un peu de mal à comprendre ce que c'est que le mouvement Colibri. Le mouvement Colibri, il est né il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans au début de l'année 2017, donc en 2007. Et il s'est donné comme objectif principal, comme raison d'être, d'aider les gens à mener des projets de transition. Donc ça, c'est très vague. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est rien du tout. On apporte notre soutien aux gens qui font des choses, ce qu'on appelle de l'empowerment en anglais. Donc, pour aller très vite, on a trois pôles qui répondent aux trois questions que se pose quelqu'un quand il veut entamer une démarche de transition. La première question, c'est « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Donc, à cette question, on répond par l'inspiration. Et c'est notre premier pôle inspiré. On donne des idées aux gens. Ça passe par des films, comme le film Demain.
Film de Cyril Dion. Cyril Dion qui a été directeur pendant longtemps des Colibris et que vous avez participé à financer.
Exactement, on a été le premier financeur de Demain. Et Cyril n'était plus à la tête de Colibris. Donc oui, c'est étroitement lié à Colibris. Et puis c'est dans notre rôle d'inspirer.
C'est montrer tous les bons exemples, toutes les idées, toutes les initiatives qui se font partout et qui peuvent en inspirer d'autres et qui ont intérêt à faire boule de neige pour une transition.
Et ben c'est exactement ça. On donne à voir ce qui existe. Donc par des films, par des publications, on a une collection Domaine du Possible avec Actes Sud, des cahiers d'activités Nathan, un magazine en ligne, voilà. On diffuse, on donne des idées. Notre deuxième raison d'être, c'est répondre à la question, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, il faut se demander avec qui. Et donc ça, c'est notre pôle relié. On met tous les gens qui veulent faire des choses en lien les uns avec les autres pour qu'ils puissent créer des collectifs. Parce qu'il faut absolument être à plusieurs pour mener une action efficace et joyeuse. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et avec qui, on se demande comment. Et là, c'est notre troisième pôle, c'est le pôle soutenir. On crée des outils pour les gens qui ont des projets, pour les aider à concrétiser vraiment leurs envies. Souvent, ce qu'on dit, c'est que les gens, ils font 90% du chemin. Donc, ils ont l'idée, le lieu, le collectif, l'énergie. Et nous, on apporte les 10% qui restent, qui ne sont pas énormes, mais qui permettent d'être l'élément déclencheur pour que ça devienne réel. Voilà.
C'est quoi ces 10% en général ?
Et bien justement, c'est là qu'on arrive. On a plusieurs projets dans le pôle soutenir. En général, c'est des outils très concrets. Parmi tous ces outils, on a l'Université des Colibris, qui est une université de formation en ligne qui donne des outils, des connaissances pour pouvoir monter un projet en gouvernance partagée, en permaculture, en oasis. Un autre outil, c'est la Fabrique des Colibris. C'est une plateforme d'entraide citoyenne en ligne qui permet aux porteurs de projets de présenter ce qu'ils veulent faire et leurs besoins. Un exemple très concret, je monte un café coopératif et j'ai besoin un samedi de 5 bénévoles pour m'aider à monter une étagère. Ben, je vais sur la fabrique, je dis quel est mon café, et je dis ben, j'ai besoin de tant de bénévoles, je pose mon besoin. Et après, tous les citoyens qui veulent faire leur part peuvent aller sur cette plateforme et voir quel projet proche de chez eux a besoin comme compétence et répondre.
Tu as dit faire leur part. Au départ, les Colibris, c'est une histoire. C'est une personne, c'est Pierre Rabhi, et qui commençait en général ses conférences par l'histoire du petit colibri. Alors, ce serait bien que ce soit un colibri qui nous raconte l'histoire des colibris.
La légende du colibri est une légende amérindienne. Donc, la légende raconte qu'un grand feu de forêt se déclare. L'ensemble des animaux se groupent autour du lac pour regarder leur habitat brûlé, impuissant, à l'exception du petit colibri qui commence à faire des allers-retours entre le lac et la forêt en feu, son bec rempli d'eau pour essayer d'éteindre justement les flammes. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses allers-retours vains, dit au colibri « Mais colibri, arrête, ça sert à rien ce que tu fais. » Et le colibri répond « Je sais, mais je fais ma part. » Et colibri, faire sa part, véhicule l'idée que si tout le monde, à son échelle, faisait les petits gestes qui lui correspondent, c'est-à-dire qui lui donnent du plaisir et qui sont à son échelle, eh ben on transformerait vraiment la société et puis on éteindrait le grand feu qui est à l'œuvre en ce moment.
Et il y a une deuxième chose qui me semble importante de ce que je sais, moi, des colibris, c'est cette idée de sobriété heureuse.
Oui, tout à fait. Donc la sobriété heureuse, c'est un concept qu'a appliqué d'abord, puis transmis Pierre Rabhi, qui consiste à contester le mode de vie et de consommation qui est proéminent aujourd'hui en France et dans le monde, et retrouver un rapport aux choses et à soi qui soit davantage sur le mode de la sobriété. C'est-à-dire revoir ses besoins, revoir ses envies et se rendre compte que on peut s'épanouir et être tout à fait heureux en consommant moins et en ayant un impact négatif sur son environnement moindre. Donc c'est un chemin qui est long, qui est différent selon chaque personne, mais auquel invite chacun Pierre Rabhi.
Oui, c'est un chemin, on ne devient pas parfait du jour au lendemain, hein, et c'est pas grave.
Et c'est, non, bien sûr, et c'est pas grave. Et moi-même, je suis loin d'être parfaite et j'ai encore des habitudes et des façons de faire qui sont nuisibles, vraiment. Mais petit à petit, on apprend à se connaître et surtout, on déconstruit des idées ou des besoins dont on avait l'impression qu'ils étaient les nôtres.
Pierre Rabhi, tu as dit que cette sobriété heureuse, il l'avait appliquée d'abord. Alors on peut peut-être parler de... Parce que là, on est à Paris, mais en fait, les colibris, pour beaucoup qui connaissent le mouvement un petit peu depuis l'origine, c'est l'Ardèche et les Amanins.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est quoi le lien entre les Amanins, dont tu peux dire deux mots parce que je ne sais pas exactement ce que c'est, s'il y a un éco-village, qu'est-ce que c'est exactement, et le lien entre les Amanins et ici, au cœur de Babylone, au cœur de la ville, cette structure des colibris.
Alors, c'est une très belle transition parce que le lien entre tout ça, c'est les oasis. Donc, en arrivant en France, enfin quelques années après être arrivé en France, Pierre Rabhi s'est installé en Ardèche où il a expérimenté j'allais dire un nouveau mode de vie, non, un mode de vie ancestral mais oublié, dans sa ferme avec sa femme et ses enfants, où il s'agissait de retrouver une forme d'autonomie, donc de produire ce qu'on mangeait, de produire l'électricité qu'on consommait, enfin en l'occurrence il a vécu sans électricité, donc de revoir ses besoins, diminuer sa consommation, et développer sur un territoire a priori peu accueillant ou peu productif, un espace d'abondance et de vie, donc une oasis.
Et oui, parce qu'en France, il y a des zones comme celle-là, c'était dans les années 70, qui avaient été désertifiées parce qu'on les considérait impropres à une vie agricole productive, au profit des seuls qui restaient, c'était les grandes plaines céréalières. Et Pierre Rabhi, qui avait grandi quand même dans le désert, il avait quand même des capacités à voir qu'en France, il n'y a pas vraiment de désert. On peut créer des oasis en tout lieu.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est le nom du premier réseau de lieux comme ça. Ça s'appelait Oasis en tout lieu. Il s'agit de bien s'y prendre et de bien observer l'endroit sur lequel on va s'installer pour adopter des pratiques qui soient en cohérence et qui permettent d'être dans l'abondance.
Alors, On va parler de ces oasis avec toi parce que ça, c'est ce dont tu t'occupes. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter ?
Ah, j'écouterais bien Alain Souchon, Full Sentimental. C'est une chanson qu'on connaît beaucoup, mais qu'on n'entend plus. Et si on se penche un peu sur les paroles et sur le sens qu'il y a, on se rend compte que c'est très proche de Colibri.
Alors nous voilà de retour avec Gabriel, Paoli, un petit colibri à Paris. Alors, c'est quoi ton rôle ici chez les colibris ?
Alors, j'ai deux casquettes chez les colibris. Une première qui est dévolue aux publications. Donc dans ce rôle d'inspiration dont on parlait tout à l'heure, je m'occupe des publications avec Actes Sud, avec Nathan, des films et surtout du magazine en ligne. Donc là, mon travail, c'est de recenser les initiatives qui existent et leur donner de la visibilité. Ma deuxième casquette, c'est celle qui me lie au projet Oasis. Donc le projet Oasis, c'est quoi ? Il est né il y a 2 ans, au cœur de Colibri, avec l'arrivée de Mathieu Labonne, qui est l'actuel directeur. Et il a consisté à créer en France un réseau d'écolieux qui serait appelé des Oasis. Alors, le réseau des Oasis, il fait suite au réseau Oasis en tout lieu, qui lui est né il y a 15 ans, donc bien avant la création de Colibri, et qui réunissait une quinzaine de lieux autosuffisants énergétiquement, souverains alimentairement, et qui souvent étaient des lieux de vie en collectivité. Donc on parlait des amanins aussi tout à l'heure. Les amanins font partie des premiers lieux de Oasis en tout lieu. Avec le projet Oasis, on s'est dit, bon, ce réseau, il existe depuis 15 ans et il ne dépasse pas la quinzaine de lieux. Donc, on a revu les critères et on a...
Peut-être un peu moins exigeant sur le fait, au lieu de labelliser des gens qui ont déjà fait les choses, vous les accompagnez, c'est ça ?
Voilà, mais il faut travailler chez Colibri. Hein. On s'est dit, on va revoir les critères, les assouplir peut-être un peu pour permettre à davantage de personnes de se reconnaître dans la démarche. Et celles qui ne sont pas arrivées au bout, les inciter par cet effet de réseau à avancer sur leur chemin. Donc aujourd'hui, il existe 5 critères qu'on appelle des piliers et qui constituent le dénominateur commun de tous les lieux du réseau. Il y a d'abord la souveraineté alimentaire tournée vers l'agroécologie. Donc produire idéalement l'ensemble de ce qu'on consomme, mais au moins une partie des aliments qu'on consomme et de façon durable, donc avec des pratiques respectueuses de la nature.
Et là aussi, on aide les gens à le faire.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans le réseau, tous ne sont pas autonomes alimentairement, loin de là. Les amanins le sont, par exemple. Et tous les autres, eh bien, on dit, bah, vous avez 5% de votre alimentation, c'est déjà super. Inspirez-vous de vos voisins pour continuer à augmenter cette part.
Avec les voisins et puis des recettes certainement de culture, parce que je sais que Pierre Rabhi retravaille la terre, enfin, il y a quand même des choses, il y a quand même des recettes pour faire qu'on fasse un oasis.
Oui, oui, tout à fait. Le projet Oasis, c'est aussi développer sans arrêt des outils pour aider les lieux à avancer. Parmi ces outils, il y a des formations, il y a des livres sur la permaculture, des échanges de bonnes pratiques, oui, oui.
Alors ça, c'était le premier pilier qui est essentiel, qui est se nourrir.
Exactement.
Et donc le deuxième, c'est quoi ? S'abriter ?
Oh là là !
Oh merde, écoute, je te jure.
Mais, en fait, vous êtes simplement logique. Je suis dans la logique colibri, c'est génial.
Non mais c'est ça, et puis moi je le dis souvent, ni Pierre Rabhi ni Colibri n'a rien inventé, ça n'est guère que du bon sens. Donc c'est ça, donc le deuxième pilier, c'est s'abriter, c'est l'éco-construction et la sobriété énergétique. Donc ça, Pierre Rabhi le dit beaucoup, et une fois encore, c'est du bon sens. Il faut d'abord revoir ses besoins et sa consommation, à la baisse bien sûr, et une fois qu'on a vraiment estimé ce dont on avait besoin, produire l'énergie pour satisfaire ses besoins. Donc ça passe par tout ce que l'environnement permet à chaque lieu, le vent, le soleil, l'eau. Et une fois encore, l'objectif, c'est l'autosuffisance, mais déjà une partie, c'est bien.
L'autosuffisance, c'est pour être indépendant par rapport à un système, c'est pourquoi ? Pourquoi être autosuffisant, après tout ? Quelque part, ça peut avoir une idée de ne pas participer à un modèle global et à la société. Ça peut ressembler à se couper de la société des autres.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'un de nos piliers, et même le suivant, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Dans l'autosuffisance qui est l'objectif, je dirais plutôt l'autonomie, l'idée, c'est de sortir d'une certaine forme de dépendance vis-à-vis d'un système sur lequel on n'a aucune prise, qui est aujourd'hui le système d'alimentation des grandes villes, des appartements de chacun, des magasins. Si demain il y a un problème, une guerre, on est complètement démunis. Et on parlait d'empowerment tout à l'heure, c'est un moyen de redevenir son propre maître. Et en effet, le risque, c'est l'autarcie et se refermer sur soi. Et ça, c'est extrêmement important pour nous et c'est pour ça qu'on en a fait un pilier. Il faut que les oasis s'ouvrent sur l'extérieur, mais à leur mesure. Ça peut aller d'une journée porte ouverte à de l'accueil, de formation, des choses comme ça.
Ou à vendre un petit peu leur production, qui est une forme d'ouverture aussi vers l'extérieur, qui fait qu'on participe localement à permettre à d'autres habitants de profiter de ce qui est fait localement et proprement.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça, ça en fait partie. Si je peux ajouter quelque chose sur ce volet ouverture qui est très important, chez Colibri, on ne dicte rien et on essaie de convaincre personne. En revanche, on fait le pari que si les initiatives et les projets que j'appelle rapidement de transition sont les bons, c'est-à-dire si c'est cela qui rend les gens heureux, ils se multiplieront et ils essaimeront de façon automatique. Mais pour ça, il faut que les porteurs de projets transmettent et jouent le jeu. Donc l'ouverture sur l'extérieur, c'est un moyen aussi de montrer tout simplement ce qu'on fait et qu'on est heureux en faisant ce qu'on fait. Et transformer le territoire.
On en était à 3 piliers.
Ouais.
Il y en a encore un quatrième et un cinquième.
Exactement.
Le quatrième, c'est quoi ?
Alors, le quatrième, c'est la mutuelle. Non, je vais commencer par la gouvernance respectueuse. La moitié de ces oasis sont des lieux de vie en collectivité. Il y a deux types d'oasis. Une oasis ressource, donc un lieu qui est animé par une communauté qui ne vit pas forcément sur place, comme un jardin partagé, comme les amanants. C'est-à-dire que c'est une ferme pédagogique où personne ne vit concrètement. Mais un réseau de personnes l'anime, donc viennent travailler tous les jours. Et à côté de ces oasis ressources, on a les oasis de vie, qui sont des lieux où les gens vivent en plus. Et un des piliers, c'est la gouvernance respectueuse, c'est-à-dire on va prendre en compte les besoins de chacun des membres de la communauté, et y répondre. Donc dans ces oasis, chacun est respecté dans son désir et dans son envie. Après, la forme que ça peut prendre, libre à tous les lieux de la décider, ça peut aller d'une gouvernance sociocratique extrêmement stricte et cadrée à un petit déjeuner tous les mois où on règle les affaires courantes. Le but, c'est que chacun soit respecté dans son intégrité.
En tout cas, quitter le système pyramidal actuel avec un chef et des sous-fifres en bas.
À vrai dire, j'ai même envie de répondre non. C'est-à-dire que s'il y a une communauté qui parvient à répondre aux besoins de chacun à travers ce modèle-là, mais tant mieux, allez-y. On ne prône aucune réponse, on prône juste l'exigence que chacun s'épanouisse et se sente respecté.
Et libre, en effet, aux gens, s'ils ne se sentent pas respectés, de partir.
Exactement, tout à fait, voilà. Et le dernier pilier, c'est la mutualisation. C'est des lieux où on met en commun le temps, l'argent, l'énergie pour permettre de vivre mieux. Là aussi, c'est du bon sens. C'est-à-dire que s'il y a 4 foyers qui sont mobilisés pour garder les enfants, ce sera beaucoup plus facile pour tous de faire garder ses enfants et de prendre une soirée. Voilà. Pareil, une voiture pour 4 foyers, ça coûte moins, ça pollue moins. Voilà. Donc la mutualisation, c'est une réponse aussi aux enjeux de demain.
Alors, il faut avoir un compte commun quand on est dans une oasis ? Non.
Si, et puis il faut verser l'intégralité de ce qu'il y a sur ce compte à Colibri. Oui, oui.
Mais ce que tu dis, enfin, tu le dis en plaisantant, mais il y a des gens qui pourraient penser, par rapport à ce que tu dis de mutualisation, quand tu as dit mutualiser l'argent, qui pourraient penser à ce côté fermé, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est ça que je voulais te faire.
Oui, oui, tout à fait. Après, il y a des lieux qui le font. Moi, j'ai visité une oasis en Allemagne, d'une 30aine de personnes, ça c'était à Lebensbogen, où ils avaient un compte en banque pour tout le monde. Et tous les mois, ben, tous les salaires étaient versés sur ce même compte. Et quand il y en a un qui était au chômage, et ben, ils continuaient à s'alimenter. C'était leur équilibre et c'était leur façon de répondre à la société. Maintenant, comme à chaque fois, à chaque lieu, de mettre en commun ce qu'il veut mettre en commun.
Y en a combien d'oasis alors maintenant ? Parce qu'il n'y en avait que 15, Il y a
bientôt 3 ans.
Et maintenant ?
Alors attention, et je vous jure que je ne mens pas, il y en a 600.
D'accord.
Voilà, et c'est, bon, ça s'explique de façon très simple, c'est qu'en ouvrant les critères, il y a beaucoup de lieux qui étaient ce qu'on appelle des oasis depuis des années, qui se sont reconnus. Sur ces 600, donc on a une carte des oasis, mon travail aussi c'est d'accompagner les nouveaux lieux à s'inscrire sur la carte, et les lieux préexistants à s'y mettre aussi. Sur ces 600 lieux, il y en a 200 qui sont vraiment en réflexion collective initiale, donc soit un lieu sans collectif, soit un collectif sans lieu. Et il y en a 400 qui sont des projets ou en travaux, ou quasiment aboutis. Il y en a partout en France, en plein cœur des villes, en plein cœur des milieux ruraux, en milieu périurbain. Il y a autant de formes d'oasis qu'il y a d'oasis. Ces critères sont suffisamment larges pour que chacun puisse imaginer son oasis sur tous les territoires possibles.
Et sous la forme qu'il veut, c'est-à-dire ça peut être une asso, ça peut être un agriculteur qui est déjà un peu autosuffisant, qui va prendre la retraite et qui a envie de faire perdurer quelque chose, de l'ouvrir à des gens, à des projets. Ça peut être n'importe quoi. Tout le monde peut créer une oasis.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a en banlieue de Lyon, à Villeurbanne, une oasis qui s'appelle le Village Vertical. Là, quand on est devant, c'est une barre HLM. C'est-à-dire que ça a été monté avec un bailleur social. Et il y a la moitié qui est du logement social en location, la moitié qui est une propriété d'un collectif qui a monté ça. Et ils ont créé cette oasis de vie qui respecte tous les piliers. Sobriété énergétique et panneaux solaires sur le toit. Ils ont le potager, ils sont en AMAP pour la souveraineté alimentaire. Ils
mutualisent... Le potager sur le toit ?
Non, et au rez-de-chaussée. Ils mutualisent des chambres d'amis, des espaces. La gouvernance, ils la prennent, toutes les décisions sont prises en groupe. Et bien sûr, ils sont ouverts sur l'extérieur.
Donc en fait... Et c'est important ce que tu es en train de me dire sur cet exemple, parce que c'était une question que je voulais te poser. On a l'impression qu'une oasis ne peut se créer qu'à la campagne, et non, on peut donc en créer en pleine ville. Tout le monde peut la créer, il n'y a pas d'excuse.
Aucune excuse. Non, c'est vrai. Même à Paris, en plein cœur de Paris, il y a le lavoir du Buisson, qui est un ancien lavoir qui a été récupéré par quelques familles qui aujourd'hui vivent ensemble dans cet espace.
Il y a quand même un profil sociologique des colibris en général. Il y a quand même cette image un peu hippie. Sympa, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais quand même.
Oui. Alors, il y a des hippies, mais pas que. Au niveau des âges, ça va vraiment de 7 à 77 ans. C'est très varié. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de retraités. Au niveau du profil socio-professionnel, c'est souvent des gens qui n'ont pas énormément de sous. Même s'il y a beaucoup de gens qui ont changé de vie. Et qui
en avait avant.
Voilà, c'est ça, qui en avait beaucoup
avant. Et qui en avait marre surtout de la vie qu'elle est avec.
Exactement. Et là, on a par exemple Marc de la Ménardière qui a fait le film Enquête de sens, qui est un colibri pur jus, qui lui a été dans la finance, je crois, pendant des années, et qui a changé. On a un peu ce profil, mais souvent, c'est des gens qui n'ont pas énormément de sous, qui sont sobres.
Et qui ont envie d'être heureux.
Et qui ont très envie d'être heureux, exactement. Et hommes et femmes, c'est aussi assez bien réparti. Voilà, mais c'est vrai que c'est peut-être la classe moyenne, un peu bourgeoise, urbaine qui... Ouf, oh, et même pas, oh, je sais pas. Bon, en fait, non, il n'y a pas de colibri. Voilà, je reviens.
Après, bon, quand on est en rupture, quand on lâche le monde, c'est sûr qu'on ne ressemble pas à tout le monde, mais c'est peut-être bien aussi.
Oui, c'est peut-être ça aussi, la force de l'originalité, tout à fait.
Alors, comment on fait concrètement si on est charmé par tout ce discours ?
Pour monter une oasis ?
Ouais.
Alors ?
Pour vous contacter, où est-ce qu'on vous trouve, tout ça.
D'accord. Alors, Colibri, tout le monde peut tout savoir sur le mouvement, les actions, les manifestations grâce au site www.colibri-lemouvement.org. Donc là, vous verrez les projets, l'université des Colibris, la fabrique, tout. Pour monter une oasis, si que vous ayez déjà une petite idée de ce que c'est ou pas, je pense, même s'il n'y a pas une seule façon de faire, que la première chose, c'est aller voir celle qui existe déjà pour s'inspirer. Voilà, on y revient toujours. Et donc là, il y a plein de moyens. On a fait un hors-série Kaizen qui présente 100 oasis partout en France et qui donne une première bonne vision de la diversité, de la richesse de ce qui peut être fait. Après,
il est encore en vente, celui-là.
Alors, non seulement il est encore en vente, mais il y a une nouvelle édition actualisée qui va sortir début 2018. On a une boutique aussi en ligne Colibri avec plein de choses, le Kaizen Oasis en l'occurrence, et plein de livres pour s'inspirer, trouver des idées. Et une fois, si jamais on a notre idée, notre lieu, notre collectif, eh ben, il faut m'écrire gabrielle@colibri-lemouvement.org et puis me dire voilà, j'ai une maison, j'ai envie de faire ça, aidez-moi, moi je vous donnerai des liens vers les outils, vers d'autres lieux qui peuvent aider, vers des professionnels.
Merci beaucoup, Gabrielle. Au revoir.
Au revoir, merci à vous et puis à bientôt, j'espère.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur Internet.